C'est la fête. Martin McGuire est là pour nous parler de hockey. Salut, Martin.
Hey, bonjour à vous, messieurs.
Salut. Hey, Martin, je regarde tout ce qui se dit et s'écrit sur Cole Caulfield, même
on,
RDS.
On nous en parle-tu? Nous en parle-tu pas à peu près depuis une semaine?
C'est incroyable. RDS va diffuser les deux matchs des Badgers de Wisconsin.
Une bonne idée.
En fait, ben oui, c'est sûr. Je suis convaincu qu'ils auront des bonnes cotes d'écoute. Chacun de ces matchs est épié à la loupe. Mathias Brunet dans la presse écrit sur chacun d'eux, analyse le rendement. Je suis convaincu que les papiers sont super lus. Mais
il ne joue pas dans une bonne équipe.
Non, mais Martin, au-delà de ça...
Son équipe est moyenne cette année.
Laisse-moi poser ma question.
Vas-y.
Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des attentes absolument incroyables pour ce jeune homme-là quand il va arriver à Montréal?
Oui, il est un peu victime du fait que là, il y a comme un trou au niveau du contenu. Là, on travaille fort pour trouver des sujets, pour jaser, pour discuter, puis analyser. Mais effectivement, Philippe, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le jeune homme a été sensationnel dans son parcours jusqu'à maintenant. Quand il a joué dans les circuits, là, qu'on parle de l'école secondaire USHL, en passant par le programme de développement junior américain et bien sûr avec les Badgers dans le Wisconsin, là, il a marqué des buts partout. Comme je le disais, son équipe cette année est un petit peu moins bonne. Les joueurs avec qui il jouait l'année passée ont gradué pro. Ils ont été repêchés avant lui. Ils sont partis chez les pros. Donc, ils étaient meilleurs pour lui donner la rondelle parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un gars qui... Lui, c'est un finisseur de jeu. Ce n'est pas, un fabricant de jeu. C'est un gars qui va lancer au but. C'est un gars qui a le compas dans l'œil. Alors ça, il l'a assez bien fait, Philippe. Mais moi, je pense que même si ce n'est pas le même genre de joueur puis même pas le même genre de physique, là, moi, je pense qu'avec Poehling, on a eu un bon exemple d'un gars qui sort de la NCAA et qui, dans son style à lui, dans la NCAA, était un joueur qui était assez solide, pas très dominant, mais solide. Alors, Caulfield n'est pas un joueur très dominant dans la NCAA, mais c'est un joueur solide dans une équipe moyenne. Si on s'est aperçu là, que Poehling, même dans les premières semaines de son passage chez les pros, c'était difficile dans la Ligue américaine, alors ça devrait être la même chose pour Caulfield. Parce que, vraiment, là, l'autre exemple de ça, Philippe, c'est Kotkaniemi. Kotkaniemi joue sur une troisième ligne dans la Ligue élite de la Finlande. Il s'en vient dans la Ligue nationale. Il connaît 30 matchs, pas pire. Après ça, ça pique du nez. Ouais. Et pour l'année qui a suivi, il en a arraché. Jusqu'à ce qu'on l'envoie dans la Ligue américaine. Et là, il revient en force. Entre vous et moi, là, la Ligue élite de Finlande, c'est pas mal plus fort que la NCAA. Alors, par définition, là, si vous voulez voir Caulfield, parce que je pense que l'an prochain, il va graduer chez les pros. Là, cette année, c'était une période difficile. Là. Fallait qu'il joue. C'était une bonne idée de le laisser avec les Badgers. Là. Mais honnêtement, l'an prochain, d'après moi, si on est logique un peu, là, si vous voulez voir Caulfield jouer, il va falloir rouler sur la 15 Nord puis sortir dans le coin du boulevard Saint-Martin. Là. C'est un peu là que ça va se passer pour lui. Je vois pas comment, Philippe, il peut déloger soit Tatar, soit Drouin ou même Paul Byron qui va probablement jouer sur la quatrième ligne. Là.
Oui, bien, tu sais, puis quand je dis qu'on est en train de construire un phénomène, là, tu sais, j'embarque là-dedans. Là, moi, je vais les regarder. Oui. Genre, je regarderai peut-être pas tout le match, mais c'est sûr que je vais jeter un coup d'œil. Puis tous les articles dont je parlais tantôt, je les lis tous de la première à la dernière ligne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je regarde, le Canadien aussi contribue à ça parce que dans son magazine numérique, là, le programme à l'époque là, qu'on vendait, ben, d'un moment, tu peux l'avoir de façon numérique. On vend Cole Caulfield. Il a fait la première page récemment. Alors, c'est vraiment un mouvement là, qui est assez fort.
En fait, là, tu sais, c'est important pour le Canadien de vendre les gars qui s'en viennent. Mais je rappellerai qu'ils sont pas arrivés, ils s'en viennent. Tu sais, on parle avantageusement de beaucoup de joueurs, là, puis je vais même inclure Romanov, parce que même si Romanov a pratiqué avec les professionnels dans la bulle et que les feedbacks là, sont très bons de ce qu'on l'a vu faire, puis là, il n'y a pas seulement les gens du Canadien qui parlent comme ça, il y a d'autres qui l'ont vu faire là-bas, puis qui disent qu'il va être prêt pour jouer dans la Grande Ligue, là. Mais à part lui, là, les autres joueurs, là, les Strouble, les Harris, les Caulfield, ce sont tous des joueurs qui s'en viennent, puis qui sont pas arrivés. Puis encore aujourd'hui, c'est pas une garantie que ces gars-là vont avoir un impact dans la Ligue nationale, aussi bon soit-il dans leur circuit respectif au moment où on se parle.
Mais Martin, Philippe, ce que cet engouement-là trahit, là, à mon sens, puis corrigez-moi si je me trompe, là, c'est la grande soif qu'on a à Montréal depuis quoi?
C'est
25
sûr.
Ans pour un gars qui va en mettre dedans régulièrement.
Oui.
C'est clair. Écoute, le dernier, c'est qui? Stéphane Richer, peut-être?
Je pense que oui.
À peu près.
Hein? Oui, après ça, tu as eu des joueurs en fin de course qui étaient bons. Ouais, là, mais
Kovalev, c'était pendant certaines périodes. Mais vraiment, un joueur sur lequel on pourrait compter
dominant, menaçant,
pendant quelques années, c'est sûr que ça fait très, très longtemps.
Oui, parce que là, tu sais, bon, Brendan Gallagher est un gars qui marque des buts régulièrement, mais c'est pas le marqueur typique. Il va aller se salir le nez, il va manger deux, trois coups sur la margoulette, puis il va la mettre dedans après.
Saute sur le rebond, ce genre de joueur-là.
Exactement. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on est en mal d'un joueur spectaculaire, mais ce serait lui mettre une pression indue de penser que, avant de l'avoir vu dans la Ligue américaine, avant même de l'avoir vu dans un vrai camp professionnel, jouer dans un match hors concours avec des vrais pros, parce que, en plus de ça, puis là, je veux pas faire de discrimination physique, là, mais tu sais, Caulfield, c'est pas un gros bonhomme.
Non.
Alors, tu sais, pour se démarquer dans la Ligue nationale, il va devoir vraiment avoir un très bon sens de l'anticipation, parce que c'est pas non plus un patineur ultra, ultra rapide, le Caulfield, là, à son niveau. Il se traîne bien sur patin, mais c'est pas une fusée, là. Alors, il va devoir développer beaucoup de choses pour réussir à marquer des buts dans la Ligue nationale. Le lancer, semble-t-il qu'il l'a. Mais c'est déjà un départ quand tu veux marquer des buts puis tu as un bon lancer, là. Mais bon, pour le reste,
il va falloir être patient. Martin, le temps file très rapidement. Résume-nous un petit peu l'état des négociations à l'heure actuelle. Ben, ça se parle pas, hein, essentiellement, la Ligue nationale et l'Association des joueurs.
Ça se parle, mais ça se parle en secret, Philippe. Ça se parle pas de façon officielle. J'ai quelques contacts. Là. J'ai échangé un peu d'informations cet après-midi avec quelques sources dans le dossier. Là. Puis évidemment, ça continue de travailler. Ça travaille moins fort, puis ça travaille moins en gros groupe parce qu'on est au Thanksgiving actuellement de l'autre côté de la frontière, mais ça travaille encore. Puis là, ben, bien évidemment, on regarde le calendrier avancé. Si on veut commencer le 1er janvier, faut avoir vraiment une entente très, très, très bientôt. Ce qui laisse dire à certaines personnes avec qui j'ai échangé que si on veut vraiment là, avoir les joueurs à 60% à peu près de leur salaire, là, 60,4% de leur salaire, peut-être que ça va être plus facile de leur vendre de commencer le 10 ou le 15 janvier puis de jouer 48 matchs au lieu de commencer le 1er janvier de s'entraîner en camp d'entraînement pendant le temps de Noël. Comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Si les joueurs là savent que de toute façon, ça va être une année pas achetée aux poubelles, mais ou presque, là, puis au niveau financier, ça sera pas une année très profitable pour eux, peut-être qu'ils se disent, ben OK, c'est correct, là, mais venez pas nous achaler pour des matchs au jour de l'an. On va s'entraîner au jour de l'an, là, puis on va jouer un petit peu après, parce que jouer au premier de l'an, ça veut dire s'entraîner à Noël. Et ça, ben, dans les conditions financières qu'on propose aux joueurs, c'est peut-être moins intéressant pour eux. Alors là, le jeu se passe là, puis je termine là-dessus. L'autre enjeu, Philippe et Patrick, il est avec les télédiffuseurs. Parce que les télédiffuseurs payent pour avoir ces matchs-là. Alors, entre le 1er janvier puis disons le 15 mai là, pour la saison régulière, là, qu'est-ce qu'on aura, combien de matchs on a puis combien on paye pour le nombre de matchs qu'on a. Ça aussi, là, avant de faire une entente avec les joueurs, il faut s'assurer qu'avec les télédiffuseurs, on a placé tout ce dossier-là. Là. C'est très important.
On va suivre ça. Merci, Martin.
Salut.
Certainement. Bonne fin de journée à vous.